Donc, ça s'en vient de plus en plus pratique. Et là, c'est bien parce que ça fait assez de théorique. Il faut que ça devienne pratique. On va commencer par prier, demander au Seigneur, encore une fois, de nous bénir. Merci, Seigneur, pour ce merveilleux temps de louange où on a pu se rappeler qui tu es. Et tu es la raison pourquoi on est ici. Tu es. Guide-nous, Seigneur, maintenant, dans l'apprentissage de cette approche pour pouvoir communiquer efficacement ton évangile à notre génération. Amen. Amen. Avez-vous bien mangé parlant de pizza? Comment est-ce que vous vous sentez par rapport à ce qu'on est en train d'apprendre? Est-ce que vous avez l'impression que ça commence à rentrer? Est-ce que vous reconnaissez Claude Beaulieu? C'est pas lui. Peut-être que avec ce qu'on est en train d'apprendre, vous éprouvez encore un peu une certaine frustration. Peut-être que vous vous apercevez que c'est encore un peu inatteignable. C'est frustrant, hein? Mais c'est beau de vous encourager à prêcher l'Évangile. Là, maintenant, il faut que je vous mette les outils dans les mains pour que ça puisse devenir atteignable. Et on se rappelle, comment est-ce que Jésus prêchait l'Évangile? La loi avant la grâce. La loi aux orgueilleux, la grâce aux humbles. Donc, c'est le sujet de notre session maintenant. Comment faisait Jésus? Et vous rappelez qu'on parlait de sortir de la barque. Jésus marchait sur l'eau. Et on veut demander au Seigneur qu'il nous amène à marcher à sa suite sur l'eau. Et rappelons-nous comment Jésus a fait au puits avec la Samaritaine. On avait vu ensemble qu'il avait commencé avec les choses naturelles, parlant de choses à boire. Et après, il avait transitionné de façon intentionnelle aux choses spirituelles. Il a amené un sujet, si tu connaissais l'eau que moi je peux te donner, elle remplirait, puis elle ferait des fleuves d'eau vive qui couleraient de ton sein, dans un certain sens. Hein? Après ça, ce qu'il a fait, il est parti des choses spirituelles et il a amené la Samaritaine face à son péché à travers la loi. Septième commandement, adultère, elle a réalisé. Et après lui avoir montré son péché, ils ont parlé du Messie qui devait venir et là, il lui a présenté le salut, le sauveur, c'est lui à qui tu es en train de parler, le Messie. Donc, commence avec les choses naturelles, transite de façon intentionnelle aux choses spirituelles, présente la loi et après, présente l'Évangile. Évangéliser selon la voie du Maître. Et on va regarder, si vous avez votre feuille, votre paquet de feuilles avec vous, là, je veux le parcourir avec vous. Et c'est ça qui va vous rester quand vous allez retourner à la maison, un résumé, une esquisse de la présentation « Comment évangéliser selon la voie du Maître ». Ça, c'est la feuille verte. Dans votre paquet de feuilles, donc, premièrement, commencez par les choses naturelles. Ça, ce n'est pas sur la feuille verte, c'est un peu un préambule à la feuille verte. Les choses naturelles. Premièrement, dans une discussion, là, il y a un hôte et il y a un invité, comme à la maison. Qui est l'hôte? C'est celui qui accueille l'autre personne, qui s'occupe de l'autre personne, qui s'intéresse à l'autre personne. Le chrétien aimerait être qui dans la discussion avec un inconverti? L'hôte ou l'invité? Apprenons à être l'hôte dans une discussion, celui qui invite l'autre, celui qui accueille l'autre, celui qui s'occupe de l'autre. Voyez-vous? Apprenons à poser des questions et à écouter les réponses avec un intérêt sincère. Parce que trop souvent, on pose des questions, mais simplement pour faire progresser vers le but qu'on veut atteindre et on est en train de manipuler la personne. On n'est pas en train de s'intéresser à la personne. Et Jésus, si vous remarquez, il s'intéressait sincèrement aux gens qu'il rencontrait. Pas qu'il connaissait les réponses aux questions qu'il posait, il les connaissait les réponses. Mais il s'intéressait sincèrement aux personnes. Donc, moi, je trouve ça intéressant que le Seigneur a mis deux oreilles et une bouche. Je pense qu'il nous invite à utiliser en proportion, écouter beaucoup. Donc, s'intéresser sincèrement, poser des questions. Et vous, un sujet sur lequel on peut commencer, comme dans la majorité des conversations, si on veut s'intéresser à une personne, la plupart du temps, on commence avec la pluie et le beau temps. « Ah, il neige, ça n'a pas de bon sens. L'hiver a commencé tôt cette année. » Souvent, ça commence comme ça. La pluie et le beau temps. Hein? Tu as remarqué comment est-ce qu'il fait chaud? « Ah, il fait trop froid. Il fait trop chaud. » Voyez-vous? Ça commence comme ça. Une autre chose qu'on peut commencer une discussion avec dans les premiers temps d'une discussion, c'est les nouvelles. As-tu vu qu'est-ce qui s'est passé au Pakistan? « Ah, Benazir Bhutto! » Si on s'intéresse un petit peu aux nouvelles, on peut faire le lien avec qu'est-ce qui se passe et entamer une discussion avec quelqu'un. Une autre chose... Et là, on entre de plus en plus dans son cercle d'intimité. On peut lui poser des questions sur ses occupations, son travail. Qu'est-ce que la personne fait de ce temps ici? Comment ça se passe avec ton nouveau patron? Quand est-ce qu'est ton examen de philo? On s'intéresse à la personne et on entre en conversation avec la personne. On parle toujours des choses naturelles, voyez-vous? Et on entre encore plus dans son intimité. On peut leur parler après ça de leur famille, leurs amis. Donc, comment c'était l'opération pour ton frère? Qu'est-ce qui se passe avec ta mère? Est-ce qu'elle est revenue de voyage? On s'intéresse sincèrement pour connaître les gens. Si on essaie de donner des réponses à une personne avant de connaître sa situation de vie, on fait un acte de folie. Hein? Il faut qu'on sache c'est quoi, qui la personne est devant nous pour pouvoir lui parler du Seigneur en conséquence. Une autre sphère dans laquelle on peut entrer, c'est leurs loisirs, leurs activités. As-tu commencé ton badminton jeudi soir? Quand est-ce que... Des choses comme ça, leurs activités, leurs projets. Quand est-ce que qui est ton voyage à Toronto? Là? Quand est-ce que tu t'en vas? Leurs projets. Donc, premièrement, on entre en contact avec des personnes. Ça peut être une personne sur l'autobus, ça peut être une personne qu'on prend sur le pouce, ça peut être un collègue de travail. Diverses relations donnent naissance à diverses façons d'entrer en contact avec les personnes. Donc, on entre par les choses naturelles. Après, on fait un effort délibéré pour enligner la discussion ou diriger la discussion vers les choses spirituelles. Il y a toutes sortes de façons de faire, de phrases qu'on peut utiliser pour faire, et c'est là qu'on arrive avec la feuille. Il y en a toutes sortes d'autres. Et là, mais maintenant, j'en mets quelques-unes. Si vous en avez d'autres avec lesquelles vous êtes plus à l'aise, sentez-vous bien libre. Mais j'ai mis trois questions qui sont quand même assez intéressantes pour entrer dans le domaine des choses spirituelles. Souvent, on va parler de valeurs, on va parler d'éthique, on va parler de jugement, on va parler de diverses choses, son opinion par rapport à divers aspects de ce qui se vit dans la société et tout ça. Et là, on entre sur un terrain où par exemple, on parle du décès de quelqu'un récemment dans l'environnement, dans l'entourage de la personne. Et là, on entre dans les choses où on peut orienter la discussion spirituellement. Une question qu'on peut poser, as-tu une croyance spirituelle, toi? Ça se pose très bien. Moi, c'est la question qui m'a été posée et qui m'a aligné sur les choses de Dieu. Une autre question qu'on peut poser, c'est en quoi tu crois, toi? Dépendamment du contexte de la discussion qu'on est en train d'avoir, certaines questions peuvent être plus à propos que d'autres. Une autre question que moi, j'aime beaucoup poser, c'est as-tu une idée de qu'est-ce qui arrive après la mort? On parle de choses qui concernent la vie, la santé, la mort, le terrorisme, des choses comme ça, les cataclysmes ou la pollution. As-tu une idée, toi, qu'est-ce qui arrive après la mort? Et là, on entre dans les choses spirituelles et on écoute. On écoute. Si, par exemple, moi, je suis chiropraticien, j'ai un client avec moi dans ma salle de traitement et on parle, je lui pose la question, as-tu une idée de qu'est-ce qui arrive après la mort? Et là, la personne peut parler 5, 7, 10 minutes. Je ne dis pas un mot. Et le traitement termine. Puis après ça, ben, on s'en va à un prochain client. Je me rappelle ce que la personne m'a dit. Mon but, ce n'était pas de la torpiller tout de suite. Mon but, c'était de savoir est-ce qu'elle avait une croyance spirituelle ou est-ce qu'elle sait qu'est-ce qui se passe après la mort. Et à la prochaine fois qu'on va se revoir, on peut entrer de nouveau dans la discussion. Donc, ça va aller différemment avec une personne qu'on prend sur le pouce, qu'on sait qu'on ne reverra pas, et une personne, par exemple, qui est dans notre entourage régulier. On va aller plus progressivement à ce moment-là. Maintenant, une fois qu'on a adressé les choses spirituelles, là, la question clé, c'est « Si tu devais mourir aujourd'hui, est-ce que tu penses que tu irais au ciel? » Donc là, on veut savoir qu'est-ce qu'elle croit au niveau de la vie, la mort, le ciel, l'enfer. On la laisse s'exprimer, encore une fois. Donc, souvent, la personne va dire, « Bien, oui, je pense que j'irai au ciel. Je crois que je suis une bonne personne. » En discutant avec elle, elle va nous avouer ce que tout le monde nous avoue. Elle pense bien qu'elle est une bonne personne. Et là, on peut suivre en posant la question. Et tout ça, là, c'est très convivial. Vous l'avez vu sur les vidéoclips. On peut poser cette question-là avec un petit sourire en coin. Puis on n'est pas contre la personne. On est avec elle. Et si on lui montre par notre langage corporel, notre langage parlé, qu'on est avec elle, on n'essaie pas de la torpiller, on essaie de la rejoindre. On sait que Satan l'a dans son piège et nous, on n'est pas en train d'essayer de la boucher, comme on disait, on est en train d'essayer de la dégager des pièges du diable. On est avec la personne. Donc, est-ce que tu penses que tu as obéi aux 10 commandements? Est-ce que tu... On pose la question. Assez pour aller au ciel, d'après toi? Et tout ça, là, pour nous, des fois, là, ça nous semble peut-être progresser très vite, mais dans la discussion, quand on a laissé la personne parler assez longtemps, ben c'est comme ça devient approprié, qu'on relance la discussion et on va un peu plus loin. Si la personne nous dit, elle croit effectivement, quand même, avoir assez obéi aux 10 commandements pour pouvoir aller au ciel, ce qui va être très, très fréquent, là, on peut demander, sourire en coin, est-ce que tu permettrais que je te pose quelques questions pour voir si c'est vrai? Et la plupart du temps, les gens vont dire oui. Les gens vont dire oui. Vous allez rester surpris. Et à ce moment-là, c'est là qu'on entre dans la prochaine section. On commence à parler de la loi, les 10 commandements. Et les 10 commandements, moi, je me suis fait un petit mnémonique, petite technique mnémonique. J'ai mis 7 commandements qui sont là. Et les commandements sont un petit peu dans un ordre préétabli, dans ce sens que vous pouvez les modifier si vous voulez, mais en général, si on les donne dans cet ordre-là, les gens vont comme pas avoir beaucoup de choix que d'avouer, ouais, parce qu'on commence par les plus évidents. Est-ce que tu as déjà menti? Ça, c'est le 9e commandement. As-tu déjà menti? Et si la personne avoue oui, qu'est-ce que ça fait de toi? On aimerait pouvoir lui faire dire, qu'est-ce que ça fait de toi, humain, ça me fait de moi quelqu'un de normal ou quelqu'un qui a menti, les gens vont vouloir, hein? Mais là, on dit, ça commence par M, c'est pas ma sœur. Menteur, hein? On essaie de lui faire avouer, ça fait de moi un menteur. Et vous remarquez, dans les vidéoclips, quand la personne dit menteur, c'est comme ça enregistre dans la caisse enregistreuse. Je suis menteur. Et là, des fois, la personne va se tortiller. Ah, mais là, c'est juste une fois, ou quand j'étais jeune, ou tu sais, des petites affaires, ou pas plus que les autres, ou. Mais quand même, je suis menteur. Après ça, 8e commandement. Est-ce que tu as déjà volé quelque chose? Il y a des gens qui vont dire non. Là, tu peux lui dire, quand tu m'en pousses pas une bonne, là. Ou bien tu viens de me dire que tu étais menteur? Mais en général, si tu aides la personne à réfléchir, puis encore là, sachez que les réponses que vous obtenez au moment où vous parlez avec la personne, c'est possible que la personne va vous dire « Non, je ne suis pas menteur. Non, je ne suis pas voleur. » Puis vous n'allez pas vous obstiner avec la personne en disant « Je sais que tu es menteur. » Acceptez ce qu'elle dit. Puis ça se peut qu'elle sorte de votre discussion en ayant dit « Je ne suis pas menteur. » Puis qu'après ça, elle réfléchit en elle-même, puis elle dit « Je suis vraiment menteur. » Puis j'y ai menti tout le long de la discussion. Voyez-vous? Mais Saint-Esprit fait son travail pareil. C'est pour ça qu'on n'a pas à se soucier nécessairement des résultats immédiats, mais continue à prier pour. Donc, as-tu déjà volé quelque chose? Même si le montant n'était pas vraiment important, une bonne façon de convaincre la personne, c'est si je te vole 10$ dans ton portefeuille ou que je t'en vole 100, fais-tu une différence? Non, parce que j'ai eu l'audace de prendre ton portefeuille puis de prendre l'argent. Qu'est-ce que ça fait de toi si tu as volé quelque chose? Un? Voilà. Combien est-ce que, vous avez entendu ça dans le clip, combien est-ce que ça prend de mensonge pour être un menteur? Un? Combien est-ce que ça prend de vol pour être un voleur? Un. Un voleur. Ça fait de toi un voleur. Les versets que vous avez là, qui sont en italique, on n'est pas obligé de les dire au moment où on parle avec la personne, mais on les garde à l'esprit. Et vous remarquerez que j'ai pris dans le verset la portion qui s'applique à ce qu'on est en train de dire. On garde ça à l'esprit. Puis si on voit plus tard que la personne, c'est comme elle ne veut pas admettre, puis elle ne réalise pas la gravité de ça, mais on peut revenir éventuellement, puis lui mentionner que justement, les voleurs, les menteurs vont avoir leur part dans le lac de feu, puis qu'ils n'auront pas de part dans le royaume des cieux et tout ça. Et donc, as-tu déjà volé quelque chose? As-tu déjà pris, après ça, numéro 3, le troisième commandement, as-tu déjà pris le nom de Dieu en vain? Autrement dit, les gens ne comprendront pas nécessairement, as-tu déjà sacré? Bien, combien au niveau des gens qu'on fréquente dans notre société peuvent dire « Non, j'ai jamais pris le nom de Dieu en vain. » Très peu, hein? S'ils nous disent ça, bien là, ils sont en train de transgresser le neuvième commandement, celui du début. As-tu déjà menti, hein, en général? Encore pire, ajouter « maudit » avant son nom. Et on fait prendre conscience à la personne que c'est pas juste sacré, c'est un blasphème. Le nom biblique pour sacré, c'est « blasphème ». C'est un outrage à Dieu, c'est un mépris de Dieu, c'est une attaque envers la sainteté de Dieu, le Dieu qui l'a créé, qui lui a donné la vie, qui lui donne le souffle, qui la garde en vie. Je prends ma langue pour agresser ce Dieu-là, attaquer sa réputation. On lui fait prendre conscience de la gravité de ça, sans prêcher, mais juste en discussion. Après ça, on va au sixième commandement, « Tu ne tueras point ». Donc, le Nouveau Testament dit « Quiconque haït son frère, 1 Jean 3,15, est un meurtrier. » Est-ce que tu as déjà haï quelqu'un? Assez pour entretenir des mauvaises pensées envers, lui vouloir du mal. Est-ce que tu as déjà haï quelqu'un? Qu'est-ce que ça fait de toi? Un meurtrier dans tes pensées, dans ton cœur. Et Dieu regarde le cœur aussi bien que les actions, que les paroles, il regarde au cœur. Cinquième commandement, honore ton père et ta mère. Est-ce que tu as toujours honoré, obéi à tes parents? Qui peut dire oui? Hein? Les 10 commandements, quand tu t'arrêtes comme il faut puis tu veux être honnête, tu dois admettre. Devant eux ou dans leur dos. Septième commandement, tu ne commettras point d'adultère. Jésus a dit que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Alors, tu poses la question. Est-ce que tu as déjà regardé une personne du sexe opposé pour la convoiter dans ton cœur, désirée sexuellement? Combien de gens vont pouvoir répondre non à ça dans la société dans laquelle on vit? C'est tellement... En dernier, le premier commandement, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Est-ce qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui passe avant Dieu dans ta vie? Est-ce que Dieu a toujours eu et a toujours la première place dans ta vie? Est-ce qu'il passe en premier dans tes priorités, dans l'utilisation de ton temps, dans l'utilisation de ton argent? Qui peut répondre oui à ça? Et vous allez voir des gens qui vont répondre oui à ça. Mais c'est rare. On n'est pas obligé d'utiliser les 7 commandements que j'ai mis là, ou dans certains cas, on peut peut-être faire les 10 commandements, parce qu'on s'aperçoit que la personne, elle n'est pas en train d'adoucir. On peut avoir besoin d'aller plus loin. Et c'est pour ça que si vous regardez sur votre dernière page, en beige, je crois, il y a un aide-mémoire pour mémoriser les 10 commandements. Si vous ne les savez pas déjà, c'est des petites illustrations qui aide à associer le chiffre avec le commandement pour qu'on puisse bien maîtriser les 10 commandements et toujours les avoir dans notre poche avec nous, qu'on puisse toujours interpeller quelqu'un au niveau des commandements. Si tu poses une question à la personne, tu dis « Est-ce que tu connais les 10 commandements? » comme j'avais fait à un moment donné. Puis là, si la personne se vire de bord et te dit « Toi, tu les connais-tu? » tu ne devrais pas avoir de l'air de ce que tu vas avoir de l'air. Donc, c'est bon de les connaître. Une fois qu'on a passé à travers les commandements, on devrait avoir commencé à voir la personne, à se sentir interpellé et être de moins en moins fanfaron, de plus en plus pensif et réfléchir. Et c'était ça le rôle de la loi, fermer la bouche. Oui, mais, oui, mais, oui, mais, oui, mais. Puis à mesure qu'on avance, et si vous allez voir sur Way of the Master, puis vous comprenez l'anglais, allez voir les vidéoclips de ça. Vous avez ça dans vos ressources d'évangélisation, là. Il y a le site Internet Way of the Master. C'est des clips d'évangélisation comme un peu ce qu'on a vu aujourd'hui. Et vous allez voir, justement, il y a des personnes qu'on voit vraiment la conviction de péché. Et à la fin, on voit qu'ils sont là, puis ils se grattent la tête, puis oh, mais qu'est-ce que je peux faire, moi, là, là? Ils sont vraiment convaincus de péché. Donc, c'est bon. Et là, une fois qu'on a passé à travers les commandements, là, on lui dit, « Tu viens de m'admettre que tu es un menteur, tu es un voleur, tu es un... » Et là, on met ce que la personne a admis. Un blasphémateur, un rebelle à tes parents, adultère. Ce que la personne nous a avoué, on lui dit simplement, on n'est pas en train de l'accuser, on est en train de lui refléter ce qu'elle nous a dit. « Tu viens de m'admettre que tu es ça, 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 ça. » Si Dieu, donc, te jugeait, d'après les 10 commandements, est-ce qu'il devrait te considérer innocent ou coupable? Et on la laisse parler, on la laisse réfléchir, on la laisse s'exprimer. Comme vous avez vu, ça gigote, là. Ça mijote. Et dépendamment de ce que la personne dit, on peut aller plus loin. Est-ce que tu dirais que si Dieu devait te juger selon les 10 commandements, il devrait t'envoyer au ciel ou en enfer? Est-ce qu'il devrait t'envoyer au ciel ou en enfer? Et donc, si la personne répond au ciel, ben là, on peut lui faire réfléchir. Pourquoi il devrait t'envoyer au ciel? Et lui demander c'est quoi les justifications qui disent ça. Et lui aider à voir qu'elle nous avait déjà avoué qu'elle était coupable. Et comme on parlait tantôt durant les clips, mais là, est-ce que Dieu devrait laisser entrer le péché dans le ciel? Est-ce que ce serait raisonnable que le péché soit dans le ciel pour l'éternité? Est-ce que la note de passage ne devrait pas être 100? Et aider la personne à réfléchir là-dessus. Si vous voulez plus d'explications que ce qu'il y a là-dedans, vous pouvez aller sur le site livingwaterscanada.com et ça, c'est dans la liste des ressources d'évangélisation. Et il y a un document qui explique plus en détail les diverses objections qui peuvent être relevées durant une discussion comme ça et qu'est-ce qu'on peut répondre à une personne pour l'aider à voir davantage sa situation devant Dieu. Donc, je vous référerai à ça si vous voulez plus d'explications. Moi, j'ai voulu vous donner un document qui est plus précis pour que vous puissiez avoir un survol de l'approche et que c'est plus facile, comment dire, à maîtriser. Mais si vous voulez aller plus en détail, allez sur le site puis vous allez avoir plus d'informations. Donc, si la personne dit « je ne crois pas en l'enfer » ou si la personne dit « je ne crois pas en Dieu », bien, on peut lui dire que tu y crois ou que tu n'y crois pas, ça n'importe pas beaucoup parce qu'au fond, ça ne change pas la réalité. Si tu dis « je ne crois pas en la loi de la gravité » puis tu t'en vas sauter sur le toit de l'église ou le toit de la tour du CN, mais tu vas devoir expérimenter les conséquences de la loi de la gravité même si tu n'y crois pas. Simplement pour l'aider à réfléchir. Encore là, ce n'est pas l'idée de la boucher, c'est l'idée de lui apporter des éléments de réflexion pour qu'elle puisse voir que sa position n'est pas aussi ferme qu'elle le pense. Et on peut toujours progresser. Ça, c'est une chose que je pense que j'aimerais vous encourager à réaliser. Si on arrive avec une personne, on commence à parler des choses spirituelles, et la personne dit, dès le départ, « je ne crois pas en Dieu », ça ne veut pas dire que l'interview est terminée. On peut toujours dire, « OK, si Dieu existait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu, et que la Bible, c'est le best-seller de l'humanité, donc il faut que tu admettes que même si toi, tu n'y crois pas, il y a beaucoup de monde qui y croit, si Dieu existait, et là, on continue. » Et savez-vous quoi? Si vous l'amenez à voir la possibilité que Dieu existe, la plupart du temps, quand vous progressez dans les commandements, elle va oublier le fait qu'elle ne croyait pas en Dieu, puis elle est directement avec vous dans la discussion. Et elle parle avec vous comme croyant que Dieu existe. Pourquoi? Parce que sa conscience lui témoigne qu'il y a un bien, qu'il y a un mal. Que le bien doit être récompensé, que le mal doit être puni. Et au fond, là, elle dit ne pas croire, mais au fond, il y a quelque chose en elle qui croit. Dieu a mis en elle la pensée de l'éternité. Puis il a mis aussi le ciel, les étoiles, les grains de sable, qui lui montrent que Dieu a des perfections invisibles, il existe vraiment au fond. Donc moi, je vous dis, laissez-vous pas désarçonner si la personne dit « je ne crois pas en Dieu » ou « je ne crois pas en l'enfer ». Continuez en disant « OK, si c'était vrai ». Moi, je crois que c'est vrai. Beaucoup de gens croient que c'est vrai. Si c'était vrai, et là, on continue. Et souvent, la personne, elle continue avec nous. Ça, c'est une bonne façon de quand même progresser dans la discussion avec la personne, tout en la respectant. Et là, Une fois que la personne est prête à admettre qu'elle irait en enfer, ou même si elle l'admet pas, mais si c'était vrai que Dieu devait t'envoyer en enfer, parce qu'elle a admis qu'elle a fait quelques péchés, là, si c'est vrai que Dieu ne laissera pas rentrer le péché dans le ciel, si c'est vrai que Dieu ne laissera pas impuni celui qui prend son nom en vain, et là on peut amener quelques versets, si c'est vrai, est-ce que ça te préoccupe que c'est possible que tu doives aller en enfer pour l'éternité? Et là, au début, là, c'est très convivial, mais quand on est rendu là, là, moi, à mon avis, ça devient sérieux. Parce que là, on est en train de l'interpeller par rapport à sa destinée éternelle. Et je me dis, si on n'a pas des larmes dans les yeux, ce serait bien qu'on en ait dans la voix. Parce que la personne ne comprend pas sa situation, mais nous, on la comprend. Et on sait que si elle ne change pas, c'est très probable qu'effectivement, elle va être en enfer pour l'éternité. Donc, est-ce que ça te préoccupe que ça se peut que tu aies à aller en enfer pour l'éternité? Avec toute la douceur, la compassion, la supplication qu'on peut avoir. Si elle dit, « Ah, ça ne me préoccupe pas du tout. »« Ah, mais moi, ça me préoccupe. Je ne voudrais pas que tu aies à aller en enfer. Je ne voudrais pas ça pour mon pire ennemi. Je ne voudrais pas ça pour les gens que j'aime. Je ne voudrais pas ça pour toi. » Peut dire, moi je ne veux pas t'enrôler dans quoi que ce soit, là. Ça ne me paye rien là, de ce que tu me dis. J'ai rien à gagner de ça, mais je ne voudrais pas que tu ailles en enfer. Et c'est là que j'avais apporté aussi, est-ce que tu me vendrais un de tes yeux pour 50 000 $? Les deux pour 1 million? Tes yeux, non, tu ne me les vendrais pas parce qu'ils ont du prix à tes yeux, mais là, tu es en train de jouer à la roulette russe avec ton âme pour l'éternité. Trouver des façons de plaider avec la personne pour qu'elle réalise. Garde. Mes chums vont être en enfer, je vais jouer avec eux autres. Ah, t'es-tu sûr de ça? T'es-tu prêt à gager ton éternité là-dessus? Serais-tu prêt à gager ton fonds de pension, toi, sur une bagatelle? Mais là, t'es en train de gager ton éternité sur une bagatelle. Aidez la personne à réfléchir. Donc, si la personne dit oui, ça m'inquiète, mais là, on peut dire, qu'est-ce que tu vas faire? On lui remet le fardeau de la preuve, on lui relance la question. On lui lance la balle est dans son camp. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas, moi. Qu'est-ce que je peux faire? Et là, on peut poser. On peut dire, sais-tu qu'est-ce que Dieu a fait pour que quelqu'un qui a transgressé les commandements ne soit pas obligé d'aller en enfer? Sais-tu qu'est-ce que Dieu a fait? Toi, tu ne peux rien faire. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas, moi, je ne peux rien faire. Qu'est-ce que je peux faire? Tu ne peux rien faire. Sais-tu qu'est-ce que Dieu a fait? C'est ça, le christianisme. Hein? Dieu a fait quelque chose. Là où nous, on ne pouvait rien faire. On était morts dans nos transgressions, on ne pouvait rien faire. Donc, sais-tu qu'est-ce que Dieu a fait pour que tu puisses éviter d'aller en enfer? Et si la personne dit, non, je ne sais pas. Et nos trois amis ne savaient pas. Rares sont ceux qui savent. Et à ce moment-là, si la personne dit, non, je ne sais pas, et que son langage corporel vous dit, j'aimerais le savoir, et là, vous prêchez l'Évangile. Et vous remarquerez que dans ma prédication de l'Évangile, j'ai mis simplement trois versets. Jean 3, 16, Jean 14, 6 et Romains 19. Pourquoi je n'ai pas mis les versets sur le péché? On en a parlé, ça fait 9 minutes qu'on en parle, et là on va parler une minute de la solution. Donc, on peut placer là, insérer là, une présentation simple, précise de l'Évangile. Et Jean 3, 16, c'est Dieu qui donne la solution. On a péché. Dieu doit exécuter la justice, on doit mourir. Et donc, mais Dieu a permis qu'un autre meure à notre place, la substitution que Jésus a fait sur la croix. Il a été condamné, il a été mis sur une croix, il est mort à notre place. Mais il n'est pas resté là, il est ressuscité, ce qui était une preuve pour toute l'humanité que Dieu a accepté son sacrifice une fois et pour toutes. Il y a beaucoup de monde qui sont morts de toutes sortes de façons, mais Jésus est ressuscité des morts très différents. Dieu a accepté son sacrifice pour l'humanité. Et la fameuse illustration du livre des péchés, nos péchés, c'est comme si un livre nous pesait tellement qu'il nous séparait de Dieu, nous empêchait de pouvoir monter en sa présence. On était comme des brebis errantes, perdues. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui le péché de nous tous, ce qui fait que nous, on peut être réconcilié avec Dieu, avoir la vie éternelle. Il a été blessé pour nos iniquités, il a été puni à notre place. C'est le châtiment que nous méritions est retombé sur lui. Illustration du livre des péchés. Et vous insérez là vos propres illustrations qui aident à présenter l'Évangile de façon claire et précise. Parce que Jésus a porté notre péché, on peut avoir accès à Dieu. Et moi, je pose la question, est-ce qu'il y a d'autres façons d'aller au ciel? Et Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Donc, ce qui sauve, ce n'est pas une religion. Je t'invite pas à changer de religion. Je t'invite pas à quitter un groupe pour rentrer dans mon groupe. Ce qui sauve, ce n'est pas une religion, c'est une relation avec le Dieu vivant qui est rendu possible à cause de Jésus-Christ. Le seul chemin, Jésus versus tous les autres. Tous les autres essayent de nous donner une façon par laquelle on peut se rendre à Dieu, mais Jésus, lui, est venu nous chercher quand on a réalisé que c'était impossible pour nous d'aller à Dieu. C'est ça la différence. Jésus est le chemin. Est-ce que ça veut dire que tous les gens vont être sauvés? On veut rendre ça personnel pour la personne. Non, pas tous les gens vont être sauvés parce qu'il y en a qui refusent ça. Ils refusent de croire à ça. Ils refusent d'adhérer à ça. Ils refusent d'accepter ça. Ah, c'est trop facile. Ou des choses comme ça. Donc, ce n'est pas tous les gens qui vont être sauvés. Comment est-ce qu'on peut personnellement prendre possession de ce cadeau que Dieu a fait à l'humanité et à nous-mêmes? C'est là que moi j'amène Romains 10, 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et donc, à mon avis, dans ce verset-là, on voit deux aspects au salut, deux côtés d'une même médaille du salut. Si tu confesses et si tu crois. Et moi, je trouve que c'est important de parler des deux aspects. Confesser, c'est homologuer. C'est homologueo, qui veut dire être d'accord avec, comme on homologue un record du monde, quand les circonstances sont adéquates, le vent n'est pas trop fort et tout ça, on dit c'est officiel, le record du monde tient. Bien, c'est d'être d'accord avec la réalité. Homologuer, si tu confesses tes péchés, c'est-à-dire que tu es d'accord au verdict de Dieu sur ta vie. Tu confesses, tu t'acceptes, t'admets que Dieu a raison de dire que tu es pécheur, perdu, que tu mérites l'enfer. Tu confesses de ta bouche. Tu confesses, ça inclut aussi la repentance. Parce que si tu admets, tu acceptes que Jésus est venu te sauver de tes péchés, est-ce que tu peux rester dans le chemin de la perdition? Non. Confesser, ça veut aussi dire se repentir. Donc, changer d'avis dans ma tête qui implique changer de direction dans ma vie. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, ça implique la repentance. Et l'autre aspect de la médaille, c'est la foi. Si tu crois dans ton cœur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Crois, crois à ce que Dieu dit concernant Jésus. Il était vraiment le Fils de Dieu. Il était le Messie qui devait venir. C'est lui le seul chemin. Il peut sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de lui, ceux qui viennent à lui. Il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Crois au Seigneur Jésus. Et on sait que la foi, ce n'est pas juste une foi intellectuelle, je crois en Jésus, parce qu'on sait que les démons croient aussi et ils tremblent, mais c'est une foi qui est prête à mettre en pratique, comme l'illustration de la chaise. Je crois à la solidité d'une chaise. Qu'est-ce qu'il prouve? Je suis prêt à m'asseoir dessus. J'y crois au point de m'asseoir dessus. Et Jésus, j'y crois au point de le suivre. Donc, ce que ça veut dire, les deux faces de la repentance, c'est j'admets, je m'en vais dans mon chemin, dans ma vie, c'est moi le maître de ces lieux, c'est moi le nombril du monde, et je décide pour numéro un dans le monde, j'ai mon plan de match dans la vie, et un jour, le Seigneur m'interpelle et dit, Jacques, tu t'en vas vers la perdition. Est-ce que tu veux te tourner pour me suivre? Jésus a payé pour ta culpabilité. Il a subi ton châtiment à ta place pour que tu puisses être pardonné. Est-ce que tu veux donc croire et te repentir? Et j'ai un choix à faire. Je dois décider, est-ce que je vais mettre ça de côté, remettre ça à plus tard, ou est-ce que je vais croire et me repentir? Si je crois, j'admets tout ce que Dieu dit est vrai et je me repens, je me détourne de mes voies de péché pour marcher dans les voies du Seigneur Jésus. Et c'est ce qu'on appelle les jeunes à faire C'est ce qu'on vous appelle à faire aujourd'hui, dans ce sens que à s'engager à la mission du Seigneur. Parce que, comme Guy disait, on a été sauvés pour servir. On n'a pas été sauvés juste pour nos beaux yeux, assis sur le divan à regarder la TV. C'est pas ça. C'est que lui, il était sur la terre faisant une mission et nous invite à le suivre dans sa mission. Et là, si la personne est avec nous jusqu'à là, là, on peut lui poser encore une fois, on lui relance la balle. Qu'est-ce que tu penses de ça? On ne veut pas lui mettre des mots dans la bouche. On aimerait lui donner l'occasion d'exprimer ce qu'elle a compris. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je comprends rien là-dedans. Moi, la première fois qu'on m'en a parlé, j'ai rien compris. À la fin de la soirée, j'aurais pu dire, je comprends rien là-dedans. Mais j'ai compris que je ne savais pas. Et c'est ça qui a amené le déclic pour moi. Et donc, la personne va s'exprimer. Qu'est-ce qu'elle comprend là-dedans? Et peut-être que la personne comprend parce qu'il y avait déjà eu de la semence dans sa vie. Et là, c'est comme tu as tombé sur un fruit mûr. Avec ce que tu lui apportes, tu vois qu'elle est là. Puis là, elle comprend. Là. Et à ce moment-là, moi, ce que je ferais personnellement, ce qui est marqué sur la feuille, c'est que j'aimerais lui aider à examiner son engagement. Qu'est-ce que ça implique de suivre le Seigneur Jésus? Est-ce que tu crois que tu es un pécheur et on peut apporter des versets à l'appui? Est-ce que tu aimerais être pardonné de tes péchés? On veut un peu résumer les vérités pour voir si elle comprend ces choses-là. Après ça, est-ce que tu crois que Jésus, qui est Dieu fait homme, il est mort sur la croix pour tes péchés, qui est ressuscité des morts? Est-ce que tu comprends que pour être sauvé, il faut que tu te repentes de tes péchés, que tu crois au Seigneur Jésus comme ton sauveur, ton maître? Et là, on revient à la partie importante dont on parlait. Il ne peut pas avoir de nouvelle vie s'il n'y a pas une repentance, s'il n'y a pas un 180. Si on n'abandonne pas nos idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, puis attendre des cieux son Fils, comme on lit dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 9. C'est ça la conversion. Ce n'est pas juste « Ouais, Seigneur Jésus, viens dans ma vie ». C'est vraiment la foi et la repentance qui amènent un changement de maître, un changement de direction de vie, un changement de priorité, une nouvelle vie, un nouveau cœur, une nouvelle direction. Donc, une fois que la personne nous exprime là où on en est rendu, si la personne, elle est avec toi, elle est prête, elle croit tout ça, elle adhère entièrement à tout ça, mais est-ce qu'on peut lui poser la question, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'empêche de faire ça aujourd'hui? Et encore là, on aimerait lui donner l'occasion d'émettre, est-ce que, ouais, ben moi, c'est ma famille, qu'est-ce qu'ils vont penser? Et lui aider à réfléchir avec ça. Est-ce que ta famille se trouve à être l'obstacle qui se tient entre toi et le ciel et qui éventuellement t'amènerait en enfer? On aide la personne à réfléchir. Et si on voit que la personne est prête, on peut lui dire, ben, fais-le si tu es prêt. On peut avoir la personne qui demande devant vous, « OK, Seigneur, c'est moi ici, là, Jacques. Je t'ai jamais parlé avant, là, mais la personne, dans ses mots, bien simplement, ou peut-être qu'il n'y aura même pas de mots, elle va simplement pleurer, exprimer à Dieu sa détresse, puis crier à Dieu. Quiconque invoque le nom du Seigneur Jésus sera... Hein? C'est pas obligé d'être des paroles. Puis moi, je vous dis, si quelqu'un a commis l'adultère avec sa femme, puis cette personne-là, à un moment donné, réalise « Qu'est-ce que j'ai fait là? » Et là, veut retourner à sa femme, demander pardon, est-ce que la personne aurait besoin d'être dirigée dans une demande de pardon? Répète donc après moi, Joe, là. Chérie, je te demande pardon de t'avoir commis l'adultère. Je te demande pardon d'avoir... Voyons donc. S'il a compris qu'est-ce qu'il a fait, il ne sera pas capable de mettre ça dans des mots. Et s'il n'a pas compris, est-ce qu'on devrait lui faire dire des mots? Moi, je ne lui en ferai pas dire, en tout cas. Ça fait que ça, c'est ma propre réflexion. Et si la personne fait profession de foi, ou même si elle ne fait pas profession de foi, on peut lui proposer un suivi. Donc, est-ce qu'on peut la revoir? Est-ce que ça te dérangerait qu'on en jase la semaine prochaine? Ou on peut lui proposer un traité? Le petit traité que vous avez, là, La bonne personne, c'est un traité qui se donne très, très bien. Ça, si vous commencez à donner ces traités-là, là, vous allez vous apercevoir que les gens les acceptent. Pourquoi? C'est inoffensif à leurs yeux. C'est une petite bande dessinée, mais c'est le vrai message. Ça se prend très bien, ça s'offre très bien, puis ça résume la méthode que je vous ai partagé en fin de semaine. Donc, êtes-vous une bonne personne? Vous pouvez commander ça à livingwaters.com. Ils sont pas chers, 10 $ pour 100. Puis le service est très rapide. Ça fait que ça, moi, je vous encourage à au moins regarder le traité comme il faut. Puis si vous l'aimez, commandez-en puis utilisez-les. Il y a un autre traité qui doit venir bientôt. C'est un traité, le 1 million de dollars. Et je veux dire, quand tu commences à distribuer des 1 million de dollars aux alentours, les gens en prennent. Ils trouvent ça intéressant. Et en arrière, il y a l'approche évangélisation selon la voie du maître. Donc ça, c'en est un qui va sortir, qui devrait sortir bientôt cette année. Ceux qui avaient ici sont en anglais. Si vous avez des amis anglais, vous pouvez les utiliser. Mais ça s'en vient bientôt en français aussi. Donc ça, c'est deux traités qui utilisent l'approche de l'évangélisation selon la voie du maître. Peut-être vous vous dites, moi, je ne serais jamais capable de faire ça. Mais Dieu peut et veut te rendre capable. C'est un outil, c'est une méthode. Ce n'est pas la seule méthode, mais c'est une méthode, une approche. Puis, comme on peut apprendre diverses choses au cégep ou à l'université, mais on peut apprendre ça. Ce n'est pas une méthode qui est très difficile à maîtriser. C'est quand même pas un grand nombre de connaissances à maîtriser. Mais c'est la pratique. Hein? Comment est-ce qu'on devient bon à faire quelque chose? C'est en pratiquant. Donc, la pratique. Un élément très important dans tout ça, c'est l'attitude dans laquelle on le fait. Comme je vous répétais tantôt, c'est important de voir qu'on n'est pas en train d'essayer de boucher quelqu'un ou d'avoir, de gagner la confrontation. Ce n'est pas une confrontation. On essaie de retirer cette personne-là des griffes de Satan. Fait qu'on va avoir de la compassion envers eux et que le Saint-Esprit travaille dans leur cœur. On ne veut pas essayer de gagner un argument. On interpelle les personnes au nom du Seigneur Jésus et on prie que le Saint-Esprit convainque leur cœur pour qu'ils soient sortis de ces pièges, des pièges de Satan. On va chercher à persuader, comme Paul le faisait, mais c'est le Saint-Esprit qui convainc. Donc, l'attitude avec laquelle on fait la chose pourrait être un gros obstacle parce que c'est tellement facile dans l'évangélisation. On commence là avec la bonne façon de faire, puis à un moment donné, on s'aperçoit qu'on est en confrontation, on est en lutte. Et c'est pas la bonne méthode. Il faut aimer la personne. Et c'est tellement important, à mon avis, que je voulais juste prendre quelques instants pour regarder quelque chose, mettre l'évangélisation à la lumière de Matthieu chapitre 5, les béatitudes. Vous allez me dire, c'est quoi le lien entre les béatitudes et l'évangélisation? Mais regardez bien ça avec moi. L'attitude à cultiver pour la mission. Jésus, il parle de c'est quoi les valeurs importantes dans le royaume, et regardez bien comment est-ce que ça rentre dans l'évangélisation. Matthieu chapitre 5, verset 1. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et il dit, regardez bien dans l'évangélisation, « Heureux les pauvres en esprit. » C'est qui les pauvres en esprit? Ceux qui réalisent qu'ils sont banqueroutes, qui n'ont rien à donner à Dieu. Heureux ceux qui sont brisés, humbles, pauvres, banqueroutes. Qu'est-ce qu'ils obtiennent, eux? Car le royaume des cieux est à eux. Donc, c'est quoi le critère d'entrée pour le royaume des cieux? Banqueroute. Je suis mort, Seigneur. Je ne peux rien faire. Mais cette attitude-là, si on la traîne avec nous dans l'évangélisation, ça nous permet de regarder l'autre comme étant au-dessus de nous-mêmes. Et ça, c'est très utile. Deuxième chose, verset 4. Heureux les affligés. Affligé de mon propre péché, affligé du péché dans l'autre, ça me brise le péché. Et j'ai tellement compassion, je pleure pour cette personne-là à cause du piège dans lequel elle est prise de ses péchés. Est-ce que ça m'aide dans l'évangélisation? Ben, oui. Qu'est-ce que cette personne-là va recevoir? Ils seront consolés. Non seulement par des personnes qui viennent au Seigneur, mais consolées dans l'éternité aussi. Je suis affligé de mes péchés. Seigneur, délivre-moi de mes péchés. Délivre Denis de ses péchés. Oh Seigneur, console mon cœur. Oui, Denis va venir au Seigneur. Il va avoir à cœur la vérité. Une autre chose, heureux les débonnaires, ceux qui sont doux, ceux qui ne sont pas arrogants, mais ceux qui sont doux, qui se retiennent, qui ont une certaine retenue. Est-ce que ça nous sert dans l'évangélisation? Qu'est-ce qu'ils vont obtenir, les débonnaires, les doux? Car ils hériteront la terre. Après ça, qu'est-ce qu'on voit? Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Moi, je veux voir le bien triompher dans ma vie. Je veux voir le bien triompher dans la vie de mon collègue de travail. Je veux voir Jésus régner, la justice. Donc, je vais aller le voir. Ça va m'attirer. Je veux voir le bien. Et donc, celui qui a faim et soif de justice, qu'est-ce qui va lui arriver? Il va être rassasié. Oui, je vais t'en donner des personnes que tu vas pouvoir amener à la connaissance de la vérité et qui vont aussi avoir à cœur la justice comme toi. Qu'est-ce qu'on voit après? Heureux les miséricordieux. Qu'on ait miséricorde. On a reçu miséricorde, mais qu'on puisse avoir miséricorde envers la personne. Ceux qu'on a vus tantôt, là, si on a miséricorde envers eux, on va pleurer pour eux. On va être prêt à les rejoindre là où ils sont, à aller les rencontrer où ils sont. Jésus allait chez Matthieu. Il allait chez les on l'appelait un ami des gens de mauvaise vie. Pourquoi? Il y avait miséricorde envers eux. Qu'est-ce qui va leur arriver? Ils obtiendront miséricorde. Tu fais du bien, tu es miséricordieux envers les gens, tu vas obtenir miséricorde toi aussi. Après, heureux ceux qui ont le cœur pur. Quand on évangélise, savez-vous, on doit entrer dans des endroits où ce n'est pas toujours évident. Moi, je suis allé récemment parler à un jeune homme du Seigneur. Son mur était tapissé de deux choses. Photos de Jésus, photos de la Vierge Marie et tout ça, avec des photos de femmes pas habillées. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Je le regardais droit dans les yeux. J'essayais de garder mon cœur pur. Comment est-ce que je peux témoigner du Seigneur Jésus si je suis en train de souiller mon cœur en témoignant? Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. On veut voir Dieu, on veut voir Dieu glorifié maintenant, en nous, autour de nous, dans l'éternité. Je veux garder mon cœur pur à mesure que je me trempe dans la boue avec ceux qui roulent dans la boue. Seigneur, aide-moi à garder mon cœur pur. Après ça, ce qu'on voit, heureux ceux qui procurent la paix. La paix. Moi, je ne veux pas boucher la personne. Je ne veux pas antagoniser la personne. Je ne veux pas lutter, rivaliser avec la personne. Je veux produire la paix dans sa vie. Je veux être un homme de paix. Je veux que si la personne n'aime pas le fait que ça se peut qu'elle aille en enfer, qu'elle n'ait rien de mal à dire de mon attitude, de mon comment je l'ai interpellé. Et qu'est-ce qui va arriver à ceux qui procurent la paix? Ils seront appelés fils de Dieu. Procurez la paix. Cherchez la paix sur le campus autour de nous. Après ça, heureux qui sont, ceux qui sont persécutés pour la justice. Et on est-tu à la bonne place dans l'évangélisation? Bien possible qu'on se fasse. Hein? Heureux ceux qui sont persécutés. Qu'est-ce qui va leur arriver à eux? Le royaume des cieux est à eux. C'est comme, tu vas être un chrétien? Ça va passer par là. Et Jésus renchérit au verset 11. Heureux serez-vous quand on vous outragera, on vous persécutera, on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense va être grande dans les cieux. Donc, attendez-vous à ça. Attendez-vous à faire moquer de vous, rire. Ça vient avec le territoire. Donc, maintenant, vous avez les outils dans les mains. On a regardé des vidéoclips de la méthode. On a regardé un peu le pourquoi de la méthode. Maintenant, on vient de voir la méthode. Vous n'êtes pas prêt à partir avec la méthode, mais au moins, on va se prendre un temps en atelier après pour pratiquer ensemble les uns avec les autres la méthode. Et avant de faire ça, on va sûrement prendre une pause, mais réalisez que là, vous venez de faire simplement une première approche avec cette méthode-là. Moi, je vous invite, s'il y a des choses là-dedans qui vous interpellent et que vous trouvez, ça a du bon sens. Là, c'est une première exposition à ça. Moi, ça fait 3-4 ans que ça mijote en moi. Disons que je commence à le posséder un petit peu plus, puis je comprends bien que pour vous, c'est juste comme, ça fait beaucoup d'un coup, là. Ça fait comme un peu beaucoup. Mais prenez le temps, la feuille, c'est la feuille jaune, je pense, dans votre paquet de feuilles, qui est une feuille qui montre toutes les ressources que vous pouvez utiliser pour pousser votre recherche un petit peu plus. Prenez le temps à la maison, un peu de décanter ça à esprit reposé, puis faites un peu de recherche. Il y a des ressources au niveau des choses en français, des ressources au niveau de choses en anglais, si vous comprenez l'anglais, et vous pouvez investiguer un peu davantage pour comprendre un peu plus la méthode et éventuellement pouvoir la mettre en pratique. Donc, on va le pratiquer, mais en même temps, c'est un peu dans votre recherche à la maison que vous pourrez aller un petit peu plus loin. Maintenant, si vous avez des questions, on pourra en répondre tantôt dans la partie de l'atelier. Ça fait que je laisse la parole à Jean-Pierre.